Bonjour, bienvenue dans La Reprise.
La Reprise, c'est le podcast qui s'intéresse à cette période nébuleuse qui précède et qui suit la fin du congé maternité et paternité et la reprise, ou pas, du travail. Lorsqu'on se met à redéfinir ses priorités au moment de sortir de la bulle créée autour de son bébé. Dans ce podcast, des mères et des pères vous raconteront sans phare comment ils et elles ont vécu leur parentalité comme leur évolution personnelle à ce moment-là. Et des experts viendront vous apporter leurs analyses et leurs outils pour cette période si particulière, mais dont on parle finalement rarement. Je suis Tinuane, la créatrice de ce podcast, et je suis moi-même dans cette phase de transition après l'arrivée de mon deuxième garçon. Je veux aider les parents à mieux se préparer à cette nouvelle vie, et je veux aussi contribuer à faire bouger les mentalités sur le sujet, à déconstruire l'injonction à la performance qui passe trop souvent sur cette période. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner et à soutenir son développement en lui mettant un commentaire et même 5 étoiles sur Apple Podcasts. Dire que Camille a eu un postpartum difficile est un euphémisme. Elle a littéralement enchaîné les galères. Calcul, infection, opération d'urgence et j'en passe. Rien ne lui a été épargné après un accouchement et une grossesse pourtant déjà difficile. Mais comme si les douleurs physiques ne suffisaient pas, le sort s'acharne pour lui pourrir ses premières vacances avec sa fille, lorsqu'elle découvre à la fin de son congé maternité qu'elle ne retrouvera pas son poste d'enseignante. Et pourtant, lorsqu'elle nous raconte tout cela, on ne la sent pas trop traumatisée, alors qu'il y aurait de quoi l'être, 1000 fois. Qu'est-ce qui l'a fait tenir? Le travail, ses missions en tant que journaliste et critique d'art, ses lectures, la bibliothèque. Ce qui l'a nourrie intellectuellement l'a sauvée d'un postpartum quasi surréaliste. Et son humour aussi, qu'elle sème avec générosité tout au long de nos échanges. Mais l'interview de Camille ne se réduit pas au récit d'une série de galères. C'est aussi un éclairage sur les bouleversements identitaires liés à la matrescence, une réflexion sur la partition des tâches au sein du couple, ainsi qu'un témoignage sur la place et la représentation des mères dans le milieu de l'art. Bref, un épisode passionnant que j'espère vous prendrez plaisir à écouter. Et pensez à vous abonner pour ne pas rater le prochain épisode, qui donnera la parole à l'autre protagoniste de l'histoire, à savoir Com, le conjoint de Camille. Bonjour Camille.
Bonjour.
Merci d'être venue.
Merci à toi.
Alors, avant de commencer l'interview en tant que telle, est-ce que tu peux, s'il te plaît, te présenter, nous présenter ta famille et ce que tu fais dans la vie?
Alors, je m'appelle Camille, j'ai 34 ans, je suis enseignante et j'ai une petite fille d'un an et demi qui s'appelle Madeleine.
Tu es avec un conjoint?
Oui, pardon. Oui, j'ai un conjoint avec qui je suis depuis très longtemps et qui est lui aussi enseignant.
D'accord. Vous enseignez pas au même endroit?
Non, pas du tout.
D'accord.
Lui, il enseigne à Aubervilliers et moi à Lyon.
D'accord. Ah oui, à Lyon?
Oui, à Lyon.
Sachant qu'on habite à Paris.
Voilà, j'habite à Paris.
Oui, donc ça veut dire pas mal de déplacements.
Alors, très empêché en ce moment par la pandémie.
Ah oui, bien sûr.
Mais en temps normal, oui, je devrais me déplacer à Lyon. Et avant Lyon, j'enseignais au Pays Basque.
D'accord. Et est-ce que, avant de parler de ta reprise du travail, est-ce que tu peux nous raconter rapidement, en fait, comment est arrivé ce désir d'enfant, comment s'est passée la grossesse et l'accouchement, enfin, comment Madeleine est arrivée dans votre vie?
Alors, ça a été un petit peu compliqué, parce que ça n'était pas tout à fait naturel pour moi, l'idée d'avoir un enfant, donc ça a été un processus assez long. Je savais que j'aurais envie sans doute un jour d'avoir des enfants, mais j'étais très angoissée à l'idée d'en avoir pour des raisons aussi logistiques, pragmatiques, la peur d'être une mauvaise mère, l'immense peur de l'accouchement et de la grossesse aussi d'ailleurs. Donc en fait j'ai l'impression que ça fait 5 ans à peu près que je suis enceinte de ma fille et ensuite la grossesse n'a pas été de tout repos. D'abord parce que comme beaucoup de femmes j'ai fait du diabète gestationnel et puis pendant ma grossesse j'ai développé aussi des calculs à la vésicule biliaire, qui n'est pas en soi très grave, mais j'ai fait une dizaine de crises de calculs pendant ma grossesse, qui sont des crises extrêmement douloureuses.
Ah oui.
Et qui emmènent en général à l'hôpital. Alors à la fin, on sait que ça sert à rien d'aller à l'hôpital et qu'il faut juste attendre que ça passe. Mais c'est très difficile parce qu'on a l'impression d'avoir des douleurs d'accouchement. Et c'est un petit peu anxiogène quand on est enceinte de 5 mois, 6 mois.
Ah bah oui.
Voilà. Donc moi, j'ai eu ma première crise de calcul à 5 mois. Et après, ça n'a pas arrêté. Donc ça, c'était ma grossesse et je la trouvais vraiment très, très compliquée. Déjà, moi, je redoutais d'être enceinte. Alors ça, en plus, je me suis dit, ah bah dis donc, c'est pas banal, quoi.
Ouais, effectivement.
Parce que c'est des douleurs où on se traîne par terre, on se met à quatre pattes, on ne peut plus parler. Et la première fois, c'est très anxiogène. J'ai cru que je faisais une fausse couche. En fait, on apprend à reconnaître ses douleurs. Et donc, quand on a une nouvelle crise de calcul, on se met sur le bas-côté, puis on attend que ça passe. Et il n'y a rien à faire, et ça peut durer 1 heure, 2 heures, 3 heures.
Oui, il faut tenir moralement.
Voilà. Ouais. Donc c'était très dur, et puis c'est surtout que ça rajoutait des rendez-vous médicaux.
Oui.
Parce qu'on va à l'hôpital, parce qu'on nous refait un monitoring, parce qu'on nous dit « Ah, on va faire un petit toucher vaginal, juste pour vérifier que tout va bien. »
Alors... Mais ça rajoute du stress, quoi.
Ah ouais, et puis surtout, on a l'impression d'avoir le sexe comme une autoroute, quoi. Tout le monde y passe, c'est super sympa, on regarde. Et puis à la fin, on nous dit « Ah bah, le bébé va très bien. » Et nous, on est en train de crever, en train de « Ah, je vais mourir. » Et en fait, on est en ventre, quoi. Ouais. Mais voilà, donc ça, j'ai trouvé ça assez, assez dur. Et en plus... la grossesse est quelque chose qui m'inquiétait aussi parce que les maternités sont des lieux qui me foutent des angoisses pas possibles. Ça va paraître terrible, mais pour moi, j'ai vraiment un côté très pragmatique. Pour moi, il y a la grossesse d'un côté et il y a quand l'enfant est là. Mmh. Mais c'était pas du tout lié.
D'accord.
Et je voulais pas du tout qu'on me parle de bébé pendant ma grossesse.
Ah oui.
Ça n'existait pas. Non, j'avais vraiment des problèmes avec l'idée d'être enceinte. J'avais très peur qu'on voit que je suis enceinte. Enfin... Je m'étais fait beaucoup d'idées qui vont paraître sans doute un peu stupides, mais que l'état de grossesse faisait de moi un être fragile. Donc j'avais très peur d'aller enseigner enceinte. J'avais très peur de croiser mon directeur de thèse enceinte. C'est absolument irrationnel. En plus, je ne le pense pas. Je ne le pense pas pour les autres femmes. Mais en tout cas, pour moi, j'avais très peur de ça. Je suis allée passer un concours enceinte et j'étais vraiment très enceinte. J'étais enceinte de 8 mois. Je me sentais très mal face au jury parce que je voulais qu'on me voie pour une femme sûre de moi, intellectuelle. Et je me disais, et eux, ils ne voient que mon ventre.
Ah oui, pour toi, ça te caractérisait comme quelqu'un de vulnérable ?
En tout cas, j'avais peur que ça le soit.
Oui.
Ouais. J'avais peur qu'on ne me voie plus pour moi-même, mais juste comme une femme enceinte.
D'accord. Et du coup, cette peur de te voir effacée derrière ta condition de femme enceinte, est-ce qu'elle s'est plaquée aussi au fait d'être maman, de devenir maman ?
Ah non, justement. Alors ça, j'avais très hâte que ça arrive parce que je me disais, bah là, au moins, on sera séparés. On aura coupé le cordon, donc il y aura bien cette nouvelle personne, ce nouvel être, et puis moi. Alors je trouvais ça très bien. Okay. Et au contraire, moi, je me disais, comme ça, je pourrais revenir à un être autonome. Parce que pendant ma grossesse, j'avais l'impression d'être un peu duel. Donc, je ne savais jamais. Je me dis toujours quand les gens me parlent, est-ce qu'ils ne sont pas en train de penser à autre chose ? Donc, ça m'inquiétait beaucoup. Ah oui, la grossesse, c'était vraiment... psychologiquement, j'avais l'impression d'être à 3000%. Enfin, c'était l'angoisse totale, quoi.
Et du coup, quand Madeleine est née, tout ça s'est apaisé ?
Ah bah oui, alors là, tout ça, évidemment, tout ça a disparu. Elle est née au terme d'un accouchement. Alors là, je me suis dit, bon, là, c'est encore ma veine, quoi. Moi qui avais très peur d'accoucher. Alors là, j'ai eu l'accouchement de l'enfer, donc c'était très bien. Non, je plaisante. C'était pas l'accouchement de l'enfer, mais c'était quand même un moment où je me suis dit, je le raconterai jamais à mes copines enceintes, parce qu'il faut pas faire peur.
Ah oui.
Mais sur le moment, moi, j'ai pas du tout eu peur, mais je comprends que ça puisse être un peu anxiogène.
Et du coup, les premiers mois ?
Oh là là, le calvaire, très compliqué. Mais pas du tout en raison de Madeleine, qui était un petit bébé merveilleux, mais parce que j'ai eu des soucis de santé. En fait, je suis rentrée malade de la maternité, mais pas du tout malade comme j'étais rentrée. Je suis rentrée avec une infection urinaire multirésistante et puis une gastro.
Mais c'était une infection nosocomiale ?
Oui.
Oh ! Ah ouais !
Et ça a été très très dur. Alors la gastro, bon, ça c'était vraiment... C'était la cerise sur le gâteau, je me souviens encore, parce que évidemment je l'ai refilé à mon conjoint. Et donc quand Madeleine avait 5 jours, je me souviens que tous les deux, on était au bout du rouleau avec le petit bébé qui hurle et qui dort évidemment très peu et qui est un peu perturbé par cette nouvelle vie. Et puis nous qui étions malades, on passait notre journée en pyjama à manger du riz et des carottes. Non, mais c'était vraiment... Et je me disais, ah ben bah voilà, bah c'est ça le fameux vortex que tout le monde m'a décrit.
Ah oui, un début de postpartum bien rock'n'roll.
Gratiné. Et l'infection multirésistante, alors elle a duré 2 mois et demi. Donc ça a été très, très violent. Et cerise sur la cerise, Au bout de 3 semaines, quand Madeleine avait 3 semaines, j'ai refait une crise de calcul. Bon, mais ça, c'est pas très grave en soi. Mais, en fait, c'était pas une crise de calcul, je faisais une infection. Et j'ai dû être hospitalisée une semaine.
T'as fait une surinfection?
En fait, il peut y avoir migration des calculs de la vésicule biliaire vers d'autres choses. Et donc, moi, ils avaient très peur, en fait, que ça puisse, se prolonger en pancréatite.
Ah, oh là là!
Ce qui n'est pas du tout marrant. Donc, en fait, comme je commençais à avoir des symptômes assez bizarres, d'avoir les yeux jaunes, d'avoir les urines très foncées.
Ah oui.
Il y avait une sorte d'inversion très étrange. Et je suis allée à l'hôpital. Et alors là, en plus, je passais pour vraiment, alors soit la menteuse, parce que je disais, voilà, j'ai une gastro, et puis j'ai une infection urinaire, et puis je commence à avoir les yeux jaunes, et puis moi j'ai eu des calculs, et puis j'avais aussi le diabète. Enfin bon, bref. L'infirmière d'accueil, elle m'a regardée, elle s'est dit, alors elle, soit elle n'a pas de chance, soit elle lit n'importe quoi. Et donc j'ai été hospitalisée quand ma fille avait 1 mois. J'étais hospitalisée 4 jours à l'hôpital. Et là, j'ai été opérée 2 fois. Non, pas opérée 2 fois, opérée 1 fois, mais j'ai eu une anesthésie générale 2 fois.
Ah ouais?
Ouais, en 2 jours. Et alors après, j'étais un pâté sur pâte, incapable de bouger. J'étais vraiment... Déjà, on est très fatigué parce que on est fatigué par l'accouchement, le fait qu'il y a un petit bébé très mignon qui dort très peu. Mais en plus, moi, je sortais d'une gastro. J'avais toujours mon infection urinaire.
Oui.
Donc en plus, à l'hôpital, j'étais à l'isolement. C'était avant la pandémie. Mais comme j'avais une infection urinaire, ils avaient très peur pour le service. Donc j'étais à l'isolement, donc personne ne pouvait venir me voir.
Ils avaient peur que tu infectes les autres?
Oui. Oui, parce qu'elle était multirésistante.
Ah oui, oh là là.
Non, mais c'était un peu catastrophique. Et puis c'est l'hôpital, donc on m'a même pas prévenu que j'allais être opérée. Bon, c'était un peu le choc, quoi. Donc j'ai été, endormie une première fois pour récupérer les calculs, endormie une deuxième fois pour ablation de la vésicule biliaire.
Ah oui, carrément.
Ouais, mais c'est assez anodin, en fait.
Ah d'accord.
Dans la vie courante, c'est assez anodin, mais quand on vient juste d'accoucher, c'est...
Mais ça fait beaucoup, là, pour un début de congé maternité,
Là, c'était... Et donc après, je suis rentrée chez moi, et là, l'hôpital m'avait dit, alors pendant 1 mois, vous avez interdiction de porter des charges lourdes.
Oui, donc interdiction de porter son bébé?
Exactement. Interdiction de porter le bébé.
Pratique.
Pratique. Donc je leur ai dit, mais un bébé, ça compte? Ah bah oui, un bébé, ça compte. Ah bah oui, vous pouvez... ah bah oui, c'est très dangereux pour vos poings. Donc j'ai dit, mais je fais comment? Ah bah, il faut que vous ayez quelqu'un avec vous qui la porte pour vous. Mais si vous êtes assise, on peut la déposer sur vous.
Mais bien sûr, tout le monde a un esclave chez soi.
Voilà, donc c'était très pratique. Donc, on l'a fait pendant 1 semaine.
Ouais.
Pendant 1 semaine, il y a des personnes qui sont venues chez moi, des amis, la famille, des amis d'amis, toutes ces personnes formidables qui m'ont aidée.
Est-ce que ton conjoint avait repris le travail à ce moment-là?
Mon conjoint reprenait le travail.
Ah, il a repris le travail quand
à
tu rentrais de l'hôpital?
Ouais.
Oh là là, mais la conjonction des...
Alors, heureusement, comme il était à temps partiel, il partait pas souvent très longtemps. Mais c'était des journées... Alors là, c'était open bar chez moi. Il y avait du monde tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et donc, on l'a fait bien pendant 1 semaine.
Mm-hmm.
Donc, je donnais plus de biberon la nuit. J'étais assise sur mon canapé, attendant que des gens viennent me déposer ma vie sur les genoux. C'était honteux. On l'a fait bien pendant 1 semaine.
Et puis, c'était fatigant même pour toi.
Et après,
toi.
C'était fini.
C'était horrible.
Bah, moi, j'étais un peu en rémission et la douleur a été terrible pendant 3 jours. Donc, en plus, j'étais bourrée d'antibiotiques, d'antidouleurs, de doliprane codéiné. C'était... Ah oui, non, là, c'était très, très dur. Parce qu'en plus, normalement, enfin, quand tout se passe bien, quand on a un bébé qui arrive, c'est du bébé qu'on prend soin. Et moi, je pouvais pas trop prendre soin de ma fille à ce moment-là. Donc, en réalité, c'est un peu triste ce que je raconte, mais moi, pendant... une grande partie de mon congé maternité, je me souviens plus très bien vraiment ce qui s'est passé.
T'as l'impression d'être passée à côté de ton congé maternité?
Un petit peu, parce que le premier mois de la vie de ma fille, j'ai eu ma gastro, j'avais l'infection urinaire, après j'ai eu les calculs, j'avais besoin de prendre soin de moi.
Ben oui, c'est nécessaire, enfin, c'était voilà. Vital.
Le deuxième mois, j'étais en rémission de mon opération. Et c'est une opération assez banale dans la vie courante, mais vraiment, quand on vient d'accoucher, c'est assez violent. C'est terrible, hein, mais j'ai très peu de souvenirs de mon congé maternité, dans la mesure où j'étais quasiment tout le temps malade ou en train de me remettre de quelque chose. Et mon infection urinaire, elle a réussi enfin à être butée au bout de 2 mois et demi. C'était la fin du congé maternité.
C'est la fin du congé maternité, ouais. Ah oui. Et donc, en fait, tu as repris le travail complètement sur les rotules.
Alors, j'ai pas repris le travail à ce moment-là, parce D'accord. que avec mon ancien employeur, comme mon ancien employeur était très loin de Paris, on avait eu l'idée que j'allais plutôt me mettre au chômage à ce moment-là. Mais j'ai repris le travail quand même, parce que j'ai une activité de journaliste et de critique d'art. Donc j'ai quand même repris à ce moment-là. Et pour tout dire, je dois dire que j'ai été assez heureuse que ma fille soit gardée à ce moment-là aussi.
D'accord.
Parce que tout à coup, j'avais besoin de me recentrer un tout petit peu.
Oui.
Et de penser à moi. Même si ça peut paraître égoïste de dire ça, mais j'avais vraiment besoin. Donc on passait beaucoup de temps avec ma fille, même le matin, etc. Elle faisait des petites journées, mais j'ai eu besoin de retourner assez rapidement à la bibliothèque, voir des personnes. Donc ça, c'était en janvier 2020, quand j'ai repris.
D'accord. C'est pas égoïste, c'est que t'avais besoin.
Oui.
C'était un besoin.
Ah oui, là, c'était besoin, besoin vital, quoi.
Oui, parce que t'as eu la chance d'avoir une place en crèche.
Oui, donc j'ai eu une place en crèche familiale pour janvier 2020. Donc, ce qui a été vécu comme un peu une bénédiction, parce que...
Juste à la fin de ton congé maternité, c'est
ouais,
ça ?
Oui, juste à la fin du congé maternité.
Ah, donc
maternité.
Ça tombait bien. Bah, au moins là, c'était les astres étaient bien alignés.
Ah, bah là, les astres étaient parfaitement alignés. Et ce, d'autant qu'à la fin du congé maternité, j'écumais les réunions à la mairie avec... Alors là, c'est très typique, que des mères. Ouais. Il n'y a pas un père.
Ouais.
C'est que des mères avec des minuscules bébés sur le bras, comme moi d'ailleurs. Mm-hmm. Et tout le monde est là, est-ce que j'aurai une place ? Est-ce que j'aurai une place ? Et tout le monde cherche à draguer l'élu à la petite enfance. Et c'était vraiment des moments que j'ai trouvé très tristes, parce qu'on voit plein de mères très désemparées qui n'ont pas de mode de garde. Donc, quand on a eu l'annonce que Madeleine pouvait être prise en crèche, ça a été, on était très, très, très heureux. Mmh. Explosion de joie, quoi. J'en aurais presque oublié mon infection urinaire. Presque.
Et donc, tu as repris à ce moment-là. Et justement, pendant ton... Alors là, pour le coup, le terme est vraiment inapproprié. Congé maternité, qui était tout sauf un congé. Tu avais, parmi toutes ces douleurs et cette rémission, envie de reprendre ou...
Ah oui.
Oui.
Ah oui, moi, j'avais très envie de reprendre. Et même, pour tout te dire, pendant le congé maternité, j'ai gardé du travail. Et j'ai travaillé pendant mon congé maternité.
Après avoir accouché ou avant ?
Après.
Ah oui ?
Oui. Alors,
Malgré tout ça.
Ouais, moi je travaillais. Oh, ouais, parce que ça me sortait en fait du quotidien.
Ah, cette heure de sortie de la douleur.
Oui, comme ça je pensais à autre chose. Alors je faisais pas énormément de choses, mais je me souviens que je m'étais attelée à la lecture d'un livre dont je devais faire une note de lecture. Un livre de 600 pages.
Ah oui.
Et je me souviens, je le lisais méthodiquement pendant le biberon de la nuit. Celui-là, vers 2h30 où on a les yeux un peu, où il faut mettre des allumettes. Et je dois dire, je n'ai plus aucun souvenir de ce livre. Mais je faisais ça en me disant, t'es une intellectuelle, tu vas reprendre le travail, tu n'es pas que une nourrisseuse. Non, mais j'étais très obsédée à l'idée de pas être juste la mère d'un tout petit bébé. Et aussi, j'avais très peur de n'être plus que cela. Mmh. Quand Malin était bébé, je n'arrivais pas à me projeter dans le fait qu'elle allait grandir. Je me disais, voilà, ça y est, ça va être ça ma vie, effectivement, 9 biberons par jour. Bah oui, c'est ça.
Ah oui, tu te voyais mère d'un bébé à vie.
Oui, oui. Ce qui est complètement, évidemment, c'est aberrant.
Irrationnel.
C'était irrationnel, mais je me souviens, je regardais mon conjoint, je me disais, voilà, on a fait une grosse connerie, parce que c'est ça, effectivement, c'est ça que les gens n'osent pas dire, que ça va être ça, comme si ça ne bougeait pas. Et je trouve que les 3 premiers mois, c'est tellement intense, c'était tellement un tourbillon, le tourbillon biberon, câlin, dodo, biberon, câlin, il n'y a que ça, que je n'y arrivais plus du tout à me projeter dans le fait que un jour je reprendrai le travail, un jour je me lèverai le matin, je me coucherai le soir, je dormirai des nuits complètes. Ça me paraissait improbable. Mmh. Comme chaque journée donnait l'impression de durer un mois. Je me suis dit, ça y est, voilà, ça y est, je suis plongée dans le gouffre.
Et donc, tu avais besoin de te raccrocher au travail pour te dire, oui. Je ne serai pas que ça.
Oui, donc c'est vrai que je répondais à beaucoup de mails, je lisais beaucoup, mais sans souvenir. C'est vrai que maintenant, j'ai plus du tout le souvenir de tout ce que j'ai lu. J'allais voir tes expos avec Madeleine. Ah oui, oui.
Ah oui, t'arrivais à faire tout ça
Puis parfois, je la laissais à mon conjoint. Et puis, j'allais voir une expo. Même quand elle était toute petite, quand elle avait 10 jours, je l'ai laissée à mon conjoint et je suis allée à une soirée de lecture de poésie.
Et t'as réussi à te concentrer ?
Pas du tout.
Ah oui.
Pas du tout.
Ça me rassure.
Je pensais que à ma fille. C'était une très bonne soirée, mais je n'ai aucun souvenir. Et c'est pareil, une fois aussi où je l'ai laissée à mes parents quand elle n'était pas très grande, je ne sais pas, 2-3 semaines, pour aller à la bibliothèque. Mais c'est aberrant. Hein. Et à la bibliothèque, je n'ai rien fait. Je n'ai pas réussi à emprunter un bouquin, à lire quoi que ce soit, mais je me souviens, j'étais là avec mon ordinateur, je me disais, il faut que je réfléchisse, il faut que je fasse ma vie. Et mais bon, en vrai, j'étais complètement... J'avais besoin de me raccrocher à ça et c'était un peu irrationnel, mais...
Tu penses que tu avais besoin de te dire que ta vie n'allait pas changer ?
Oui, ah, ça c'était très important. Et d'ailleurs, je me souviens que ça m'avait beaucoup choquée parce que quand je suis allée à la bibliothèque, j'ai croisé quelques amis qui m'ont dit, bah alors, t'as accouché ? Je dis, bah oui. Bah, où est l'enfant ? Chez moi, avec mes parents. Et ça, je voyais que ça choquait tout le monde. Mmh. Et je comprends hein, pourquoi ça choquait les gens. Mais moi, j'en avais vraiment besoin. Mmh. En fait, là, c'était une question plus de petite survie, quoi. Mmh. Je sais que c'était un peu irrationnel. Mais la perspective du congé maternité en étant chez moi m'angoissait beaucoup.
D'accord.
Donc j'ai passé beaucoup de temps aussi. J'avais encore des tickets resto de mon ancien emploi. Et je les ai tous dépensés dans un salon de thé, pas très loin de chez moi. Tous les après-midi, j'allais au salon de thé avec Madeleine. Et elle dormait tranquillement dans sa poussette. Et moi, je lisais le livre de 600 pages. Ah oui. Je devais en lire 20 pages par jour. C'est-à-dire que je lisais rien. Mais tous les jours, j'y allais. Et tous les jours, je croisais d'autres mères avec leur bébé. Je me disais, bon, ça va, je suis pas seule. Et puis après, on va en sortir.
T'avais peur de quoi ? De l'image de la mère au foyer ?
Oui, enfin, j'avais peur de basculer dans une autre incarnation. Je savais bien que les choses allaient changer, mais je désirais que le regard sur moi ne change pas. J'avais peur que ça m'enlève quelque chose. Mmh. Même pendant très longtemps, quand on me disait « Ah, ben, maintenant t'es mère », je disais « Non, mais arrête, dis pas ça ». Ça, c'était pendant plusieurs mois, après la naissance de Madeleine.
Ah oui.
Ah oui, être mère ou être père pour mon conjoint, c'était vraiment difficile de l'assumer. Donc parfois, quand j'étais seule avec Madeleine, je disais, tu vois, je suis ta maman, mais je le faisais que avec elle. Je me disais, bon, ça va, parce qu'on est entre filles, on peut se raconter ça. Mais j'avais beaucoup de mal avec mes amis quand ils me reliaient à la maternité ou à la parentalité.
Parce que t'as l'impression que c'était quelqu'un d'autre ?
Oui. Je trouvais ça très, très difficile d'ajouter à sa personnalité une deuxième fonction. Mmh. Et aussi quand on n'a pas eu un très fort désir d'être mère. Mmh. Parce que moi, je n'ai jamais eu un très fort désir d'être mère. Et donc, je me disais, je vais être une mauvaise mère. Évidemment, si je n'ai pas eu le désir si puissant, si je n'ai pas été enveloppée par ça, je ne pourrais être qu'une mauvaise mère. Et donc, les gens vont le voir. Et c'est ça qu'ils vont projeter sur moi. Par la parentalité.
Ah.
Tu trouves ça bête ?
Non, pas du tout. Ah non, non, pas, non, y a rien n'est bête, non, non.
Ou singulier. Non, mais voilà, j'avais plein d'angoisses sur les projections qu'on pouvait faire sur moi. Ça, oui.
D'accord.
Ça, c'était très fort.
Et du coup, le fait de revenir au travail, t'étais dans un environnement connu.
Oui, et puis tout à coup, des personnes me parlaient sur d'autres choses. Par exemple, ça m'est arrivé, même jusqu'à récemment, de croiser des personnes et de discuter de notre travail, de nos recherches en cours, et d'oublier de leur dire que j'ai eu un enfant. Mmh. Alors que Madeleine a 1 an et demi. Mmh. Mais que, à ce moment-là, c'est pas rentré dans la discussion.
Oui, ça avait pas lieu.
Non, mmh. Non, non.
Après, il n'y a pas forcément besoin de savoir que t'as eu un enfant.
Non, 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 bien sûr, mais j'avais très peur de rentrer dans une autre catégorie, la catégorie des mères, à qui on ne parle que de leurs enfants.
Ah.
Aussi parce que c'est quelque chose que j'ai vu dans mon milieu, beaucoup, notamment avec les artistes.
Ah bah, j'allais t'interroger là-dessus. C'est parce que, justement, cette peur de que les gens te regardent avec d'autres yeux, d'autres lunettes, avec peut-être un jugement négatif, c'est parce que t'as dû le voir.
Oui, ça. J'ai eu beaucoup de récits. Alors, moi, j'ai l'impression d'avoir eu beaucoup de chance parce que, dans mon milieu professionnel, je côtoie beaucoup d'artistes qui ont été, pour moi, les artistes mères, des modèles absolument merveilleux. de femmes qui ne rognaient pas sur leur passion, leur créativité, leur désir artistique et qui avaient des enfants. Ça a été vraiment, pour moi, ça a été des moteurs, réellement pour moi-même me projeter comme mère. Mais toutes ces artistes ont entendu des réflexions sur leur maternité. Elles avaient toutes entendu des réflexions, « Ah, tu ne veux pas réussir. Ah, bah, ce sera ta plus belle œuvre. » Etc, etc.
Ah.
Et ça, c'était des choses que j'avais en tête et je me disais, mais comment on fait pour y échapper ? En fait, on ne peut pas y échapper. Tout ce qu'on peut faire, c'est se construire des carapaces pour intellectuellement pouvoir y échapper. Mais on ne peut pas échapper à la bêtise des autres. Ça, c'est très difficile. On ne peut pas empêcher d'autres personnes de projeter des imbécilités sur nous. Mais elles m'ont donné un peu plus de force.
Oui, parce qu'en fait, c'est tellement intégré que du coup, tout le monde considère que tu... Enfin, en tout cas, dans ce milieu-là, tu peux pas être artiste et mère accomplie.
Non, tout le monde le considère pas, mais c'est vrai que il y a beaucoup de personnes, souvent plutôt de la vieille école, qui considèrent qu'à partir du moment où une artiste est mère, ben, elle aura moins de temps, elle va plus se consacrer à ses enfants, elle pourra pas travailler le soir, on pourra rien lui demander. Ce qui est problématique à plus d'un titre. C'est-à-dire que moi, je pense que c'est pas mal aussi d'arrêter de demander aux gens de travailler n'importe quand, le soir, la nuit, le week-end, demander aux personnes des mobilités absolument aberrantes. Et d'un autre côté, je pense que toutes les artistes que je connais qui sont mères, elles n'ont jamais rogné sur leur désir artistique.
C'est marrant que tu me dises ça, parce que c'est le genre de réflexion que tu peux... Alors, entendre, pas forcément, parce que les gens n'osent quand même pas dire ça directement, mais que tu peux ressentir très fort dans le milieu de l'entreprise. Mais je pensais pas que ça pouvait être aussi touché le milieu artistique.
Et si. Et oui, dans le milieu artistique, on entend des vers et des pas mûrs.
Ah oui. Et du coup, toi, en ayant vu, entendu ou ressenti ça, tu t'es dit, moi, si je suis mère, on va me considérer comme une moins bonne professionnelle, c'est ça?
Oui, c'est quelque chose dont on peut avoir peur. Après, je me suis toujours dit, bon, il faut que cette expérience-là, les choses que tu entends, tu puisses les transformer. Et moi, par exemple, le carton de naissance de ma fille, c'est pas son visage. On a fait un carton nous-mêmes, mon conjoint. Et donc, il y a trois petits cartons. Et l'un de ces cartons, c'est toutes les phrases que les gens m'ont dites quand j'ai dit que j'étais enceinte. Qui était une manière de repasser par le texte des phrases qui parfois peuvent être passives-agressives ou problématiques. Et donc, il y a des personnes de mon milieu, quand elles ont reçu le carton, elles ont été un peu gênées de se retrouver.
Ah oui.
Parce que par exemple, quelqu'un m'a dit « Est-ce que tu sais qui est le père ?»
Hein ?
Chose comme ça, ouais. Donc, c'était fait pour être drôle, mais effectivement, dès que ça passe à l'écrit, ça l'est beaucoup moins.
Ah oui,
voilà.
C'est donc, moi qu'on puisse dire.
Et donc, toutes ces phrases que j'ai entendues qui peuvent être très étranges, même venant d'amis, j'ai un ami qui m'a dit « Est-ce que tu sais que tu vas souffrir ?» C'est la phrase qu'il m'a dit quand j'ai dit que j'étais enceinte. Donc, tout ça a été compilé. Et pendant ma grossesse, je prenais énormément de notes. J'avais un dossier Word sur lequel je mettais tout ce qui se passait, toutes les émotions, tous les ressentis, tout, pour être sûre de ne pas oublier après.
Mmh. Fascinant. Et du coup, les premiers jours, semaines, mois de la reprise du travail, comment t'as senti ta relation au travail évoluer ? Enfin, parce qu'elle a forcément évolué. Tu dis que de toute façon, on change.
Alors, c'est des choses que j'avais déjà entendues de la part des artistes, justement. Et j'ai senti ça de manière très, très agréable. Ça m'a fait beaucoup de bien qu'on est beaucoup plus efficace. Et ça, c'est vrai. Là, je me suis dit, ah là, t'es beaucoup plus efficace. Parce que quand on sait que... on doit être rentré pour une certaine heure. Moi, avant, j'étais la spécialiste de rester à la bibliothèque jusqu'à 20h, puis de rentrer chez moi en traînassant, d'aller voir une expo, et donc de pouvoir traîner des heures et des heures et des heures en travaillant. Là, quand on sait qu'on n'a que 4 heures à la bibliothèque ou que 3 heures, alors on est beaucoup plus efficace. Moi, j'ai eu l'impression d'être très efficace. Très, très efficace. Après, le confinement est arrivé, assez rapidement, en fait, parce que ma fille a commencé la crèche en janvier 2020, et puis on a été confinés mi-mars. Et là, il a fallu réinventer aussi d'autres manières de travailler. Moi, je travaillais aussi beaucoup pendant le confinement. C'était un moment assez étonnant parce qu'on s'occupait beaucoup de notre fille. Et je travaillais aussi chez moi. J'écrivais des articles. Et donc là, j'ai aussi découvert la grande efficacité du temps contraint. Quand on a que trois quarts d'heure parce que c'est la sieste ou quand il faut travailler un peu le soir, ou entre deux biberons. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai trouvé très agréable, de savoir que j'étais beaucoup, beaucoup plus efficace et que je pouvais l'être, parce que je suis une grande glandeuse, j'adore ça, j'adore étirer, aller regarder 40 fois mes mails ou Facebook, etc. Et là, tout à coup, j'ai découvert que quand je me centrais, je pouvais être d'une immense efficacité.
Ouais, donc assez gratifiant.
Enfin, je me suis pas dit que c'était gratifiant, je me suis dit c'est possible. Mmh. Et c'est pareil, par exemple, ma fille se lève tôt le matin et j'ai appris à être efficace le matin. Alors qu'avant, les matinées étaient très, très, très longues. Mmh. Et ma journée, elle commençait plutôt vers 11h30, midi. Et là, j'ai découvert qu'à 9h, je pouvais vraiment travailler, etc. Et puis, à 18h, fin de journée, là, j'ai fait 1000 choses. Je suis super fière de moi.
Oui.
Moi, ça m'a donné beaucoup d'efficacité, en fait. Et c'était, en plus, c'était quelque chose, pas dont je rêvais, mais je me disais, est-ce qu'un jour, j'en serais capable ? Est-ce que je ne vais pas me laisser déborder en ayant un enfant, justement, en ne sachant pas maîtriser mon temps ? Et en fait, non. Après, j'aime bien travailler, donc même là, en ce moment, je travaille beaucoup le soir quand elle dort. Mais je profite des moments possibles. Mais par contre, quand je suis avec ma fille, je suis avec ma fille. Je suis 100% avec ma fille.
Ouais.
Je fais pas deux choses en même temps quand je suis avec elle.
Et par rapport à la question de la répartition des charges, du travail, au moment où t'as repris le travail, ton conjoint avait déjà repris.
Ouais.
Vous avez eu une discussion à ce sujet ?
Ah oui, non, mais ça a été discuté dès la grossesse.
Ah oui.
Ah oui, oui, oui. On est très sensibles tous les deux à la question de la charge mentale, mais aussi la charge émotionnelle, enfin de tous les types de charges qui peuvent exister au sein d'un couple. Donc ça a été très discuté, parce que je savais qu'il y avait des charges qui n'existaient pas avant la naissance de Madeleine et dont, comment dire, dont on aurait du mal à réaliser le contenu avant que j'accouche. Et notamment tout ce qui est la charge des maladies, des rendez-vous à la PMI, d'aller voir le médecin. Tout ça, c'était des choses dont en fait on a discuté au fur et à mesure pour essayer de se répartir au mieux ces tâches. Et je pense que c'est relativement équilibré dans notre couple.
Mmh.
Et je pense même que quand je vais reprendre le travail à Lyon en présence, ça sera sans doute un petit peu déséquilibré à mon profit. Et que mon conjoint va en faire un peu plus.
Oui, parce que toi, quand tu pars plusieurs jours.
Oui. D'accord. Ouais. Je pars en général sur 2 jours et demi ou 3 jours.
D'accord.
Donc là, pour l'instant, c'est vrai qu'il y a des charges qui sont plus difficiles à expliquer ou à mettre le doigt dessus. Et notamment la question des vêtements. Par exemple, un enfant grandit. Et je me souviens, une fois, mon conjoint me dit « Ah bah, Madeleine, elle rentre plus dans ses bodys. » Je lui dis « Je sais. » Je lui dis, mais c'est juste que tu vois, elle a 1 an. Et moi, j'ai acheté les body naissance, 3 mois, 6 mois, 9 mois.
Voilà, chacun son tour.
Chacun son tour. Et en fait, il n'y a pas de souci avec ça, mais je me rends compte que dans mon organisation, il y a certaines choses qui me paraissent logiques. C'est une organisation qu'il faut qu'ils mettent en place.
Oui. Oui, il y a des choses auxquelles on fait attention de manière spontanée.
Oui, voilà, il y a des choses qui paraissent logiques. Par exemple, à un moment, mon conjoint s'est mis en mode petit pot. Alors ça, c'était son grand truc. Allez, je fais les petits pots. Mais il y avait une sorte de rationalité du petit pot. C'est hyper rationnel. On sait qu'on doit en faire tant par jour. Donc on fait une grosse marmite dans laquelle on met des poireaux, des pommes de terre, etc. Puis on fait plein de petits pots d'un coup. Mais il y a des choses plus invisibles. Et je trouve que, par exemple, les vêtements, c'est assez invisible. Penser au vaccin, c'est assez invisible. Enfin, il y a des petites choses comme ça pour un enfant, des choses de confort.
Puis c'est moins régulier, c'est moins routinier.
Exactement. Qui sont. Ou en fait, c'est du coup par coup. Enfin, qu'il va y avoir plus de soleil, ben, il faut acheter de la crème solaire, des choses comme ça. Et qui sont beaucoup plus difficiles à penser pour lui. Parce qu'effectivement, le pot, ben, c'est un truc, une fois que c'est lancé, ben, il faut faire des petits pots. Parce que de toute façon, il faut qu'elle mange. Et les vêtements, c'est plus complexe. Et c'est vrai, ça c'est une vraie complexité. Je peux pas lui expliquer pourquoi moi j'y pense et pourquoi lui il n'y pense pas.
Mais du coup il s'en occupe beaucoup.
De Madeleine ?
Oui.
Oui, ouais.
Et saura s'en occuper parfaitement quand tu vas partir plusieurs jours, ce qui n'est pas le cas de tous les pères. Hein.
Ah oui, non, moi j'ai une totale confiance. Je pense même parfois que je suis plus rassurée de savoir que lui va rester 2 jours avec elle que si moi je restais 2 jours avec elle.
Ah oui.
Et d'ailleurs, quand j'ai été hospitalisée, quand Madeleine avait 1 mois, quand je suis revenue chez moi à la maison au bout de 4 jours d'hospitalisation, j'ai eu un petit pincement au cœur parce que Madeleine était donc toute petite, elle avait que 1 mois. Et il avait déjà plus de connaissances que moi à ce moment-là sur Madeleine que moi.
Parce qu'il avait plus vécu.
Parce qu'il avait 4 jours en plus. Oui. Et donc, à un moment, il m'a dit ah non, tu sais, le bain. Non, parce qu'elle n'aime pas du tout quand on fait ça. Et j'ai eu un gros coup au moral parce que je me suis dit voilà, moi, je voulais pas être une mauvaise mère, mais je suis mauvaise mère. Je sais même pas comment baigner ma fille parce que tout à coup, depuis 2 jours, il y a ça qu'elle aime pas et moi, je ne le sais pas.
Ouais, je comprends. Et du coup, ça veut dire que son emploi du temps est compatible avec le tien, avec tes déplacements?
Oui. Il est enseignant au lycée. Et là, il a demandé à ne pas commencer trop tôt le matin et à ne pas finir trop tard. Ce qui fait qu'il va au lycée tous les jours.
Oui.
Mais
sur des périodes ramassées.
Sur des périodes un peu ramassées.
Oui, c'est super.
Pour cette année, c'est super. On verra pour l'année prochaine ce qui est possible.
Et c'est un choix de sa part ou c'est suite à une discussion que vous avez eue?
Ah oui, non, c'est un choix de sa part et suite à des discussions qu'on avait eues sur comment est-ce qu'on s'organisait. Mais tout comme il avait pris un temps partiel quand Madeleine est née, sur un an. Ça, c'était aussi un choix pour pouvoir l'avoir plus. Alors, c'était pas tant pour pouvoir l'avoir plus que, comment dire, il y avait quelque chose d'assez altruiste de « je veux pas que tu prennes tout ça en charge ». Ça l'inquiétait de me voir prendre tout ça en charge. Et il voulait prendre sa part.
C'est génial.
Voilà. Oui. Mais il est formidable.
Ouais, il est formidable. Ouais.
Parce qu'il y a des choses dont on parlait, et je lui expliquais que, par exemple, ce que j'avais trouvé dur dans le postpartum et la suite, c'est qu'il y a des impondérables du corps. C'est-à-dire que même si on partage tout, ce qu'on faisait, même si on partage la bouffe, les biberons, tout, les nuits, bah moi, en fait, qui a mal à sa cicatrice, c'est pas lui.
Et qui a accouché?
Qui a accouché? Qui doit faire la rééducation du périnée? Qui a rendez-vous chez la sage-femme?
Qui a la chute d'hormones?
Voilà, qui a la montée de lait? Qui machin? Donc, et ça, j'ai trouvé ça très difficile. C'est-à-dire qu'à un moment, on peut être super féministe, on a plein d'envie, on partage tout bien comme il faut, 50-50. En fait, l'impondérable du corps. Moi, j'ai douillé avec mon corps pendant très longtemps et je me disais, mais c'est dégueulasse. Mais en même temps, bah, c'est moi qui ai accouché, quoi. Donc, y a plein de choses où, même si tu fais tout très bien à côté, tu peux pas. Ton conjoint, il est pas toi, quoi. Donc, il y a des choses, il peut pas souffrir comme toi, ou il peut pas comprendre des choses corporelles.
Ah oui, et donc lui s'est dit, je surcompense.
Non, il surcompensait pas, mais disons qu'il prenait vraiment, je pense, sa part à 50%.
Puis c'est un choix aussi, parce que financièrement parlant, du coup, ça veut dire des sacrifices.
L'année où il a été à temps partiel, c'était un peu, c'était un peu plus compliqué.
Ouais.
Mais on s'est dit, bon, ça valait le coup. Voilà, c'était pour un an.
Ouais.
Qu'il reprendrait son poste après, qu'il n'y avait pas trop de difficultés à ce niveau-là. Donc.
Vous étiez allée jusqu'à vous poser la question du congé parental?
Non, quand même pas. Parce que le congé parental, moi, je trouvais ça humiliant, en fait, la façon dont c'est rémunéré.
Ah oui, c'est vrai, t'as...
En fait, c'est ça, c'est que moi, je me suis dit, mais ça, c'est une humiliation.
Mmh.
C'est vraiment une humiliation.
Oui, tu donnes 2 francs 6 sous.
Alors, je comprends très bien qu'on puisse faire ce choix, mais je me dis, mais c'est incroyable. C'est-à-dire, vraiment, c'est autant dire aux femmes, bah non, en fait, on rémunère pas du tout. Parce que c'est pas parce qu'on rémunère 400 euros que c'est pas possible, quoi. Moi, je trouve que ça valait le coup. Enfin, je pense pas que lui non plus, il regrette.
Ouais. Bah, il a dû passer, du coup, plus de temps avec vous.
Ah oui, puis bon, après, il y a eu le confinement, donc là, pour le coup, là, on a été 100%.
Alors, si on se projette un petit peu dans un monde idéal,
voilà.
Si tu étais Premier ministre, voire présidente, avec les pleins pouvoirs, si tu devais impulser des changements au niveau de la société, au niveau législatif, maintenant que tu as vécu ton congé maternité, tu as vécu ta reprise au travail, tu as vécu la reprise du travail de ton conjoint, est-ce qu'il y a des choses que tu changerais ou que tu permettrais?
La durée du congé paternité. Non, mais je suis comme tout le monde. C'est-à-dire que la durée du congé paternité, c'est pas possible. C'est une angoisse. 14 jours. Non, mais autant dire rien. Enfin, je sais bien que du temps de mes parents, c'était 3 jours. Ce qui me paraît aberrant. Mais oui, non, mais je pense que de toute façon, il faut légiférer sur cette question. Et je suis tout à fait contre les discours qui disent « Oui, mais les hommes ne veulent pas les prendre, les employeurs ne veulent pas les donner. » Oui, justement, c'est pour ça qu'il faut une loi. C'est pour ça qu'il faut contraindre.
Comme
ça. Oui, mais les hommes, c'est pas pour ça qu'ils s'occuperont plus de leurs enfants. Oui, mais c'est pas parce qu'il y a 3 glandus qui vont regarder un peu plus Netflix pendant ce temps-là et rester chez eux que ça va pas profiter à d'autres. Et je pense que déjà, le passage de 3 jours à 14 jours a réellement conduit beaucoup d'hommes à vraiment s'intéresser à ces premiers temps, qui sont effectivement très perturbants. Parce qu'on est face à un être qui croisent pas encore le regard. Moi, je me souviens de ces débuts où c'est difficile parce qu'on doit déjà être dans une relation fusionnelle avec cette nouvelle personne. Et d'un autre côté, cette nouvelle personne interagit difficilement parce que voilà, elle ne croise pas le regard, elle ne babille pas, elle ne sourit pas. Donc, il y a quand même cette difficulté. Et laisser les mères seules avec ça, je trouve ça scandaleux. De toute façon, dans la plupart des cultures, on laisse pas les femmes seules après leur accouchement. Elles sont entourées, elles ont des amis, de la famille et des hommes aussi qui sont là, qui les aident. Donc de toute façon, ça me paraît urgent de légiférer là-dessus. Alors j'ai vu que ça avait été allongé,
ouais.
Mais il faudrait vraiment réfléchir à quelque chose qui puisse être un peu plus paritaire. Et je pense que légiférer est important pour faire changer les mentalités. C'est très con, mais on le voit avec la peine de mort. C'est-à-dire qu'au moment où la peine de mort a été votée, tout le monde a dit « mais oui, mais ça sert à rien, les gens sont très favorables à la peine de mort ». Et puis évidemment, 30 ans plus tard, « ah bah oui, c'est vrai que les gens sont plus du tout favorables à la peine de mort ». Ben voilà. Non, mais je veux dire, il y a des façons de légiférer qui font modifier la façon de voir des choses. Je pense que légiférer sur le congé parental me paraîtrait aussi pas stupide, quand même. Moi, c'est pas quelque chose qui me concerne personnellement, parce que c'était pas quelque chose que je désirais pour moi, puisque je voulais reprendre le travail assez rapidement. Mais je pense que pour beaucoup de femmes, et beaucoup de pères aussi, c'est pas du tout un temps perdu, au contraire. C'est un temps gagné. Mais dire qu'on le rémunère à hauteur de 400 euros, c'est dire, en gros, il n'y aura que les riches qui pourront. Ou que les personnes qui vont se serrer la ceinture de manière drastique pour pouvoir élever leurs enfants, ce qui me paraît quand même assez... Enfin, c'est un choix de société un peu compliqué, quoi. Donc voilà, ces deux choses-là, je pense, congé paternité, congé parental, ça me paraît être quand même des points importants. Et aussi, la protection des femmes de retour de congé parental ou le congé maternité. Puisque j'ai fait la douloureuse expérience de ne pas retrouver mon poste après mon congé maternité.
C'est-à-dire ?
Eh bien, l'école dans laquelle j'enseignais m'a proposé de me mettre au chômage et de reprendre mon poste l'année suivante.
C'est-à-dire une rupture conventionnelle ?
Non, mon contrat s'achevait.
Ah d'accord.
Et j'étais censée être renouvelée l'année suivante. Et ils m'ont proposé de me mettre au chômage le temps du congé maternité.
Ah oui, de pas renouveler ton contrat immédiatement après.
Voilà, et de renouveler au bout d'un an.
Ouais, d'accord.
Et ça n'a pas été le cas.
Ah oui, pas sympa.
Ah non, très difficile.
Mais ils sont en droit de faire ça ?
Eh ben oui, puisque j'étais au chômage.
Parce que c'était la fin de ton contrat.
Exactement. Moi, j'ai fait l'erreur d'accepter ce compromis, en pensant qu'il n'oserait quand même pas me faire ça.
Oui, t'avais confiance.
Oui, j'avais confiance. Et j'ai eu tort. J'ai clairement eu tort.
Ouais, mais t'as clairement eu tort et en même temps t'as fait confiance. Et normalement c'est pas...
Ouais, mais je crois quand même que...
Ah oui, donc ça a été violent ton retour de congé maternité.
Ah bah l'année dernière, ça a été quand même assez... Oui, c'était une année... Non mais l'année 2019-2020, ça a été royal, c'est-à-dire l'accouchement compliqué, les suites de couches compliquées, le coronavirus qu'évidemment j'ai chopé en mars, et puis...
Ah oui, il y avait ça en plus, je ne l'avais pas raconté ça.
Non, ça je n'avais pas raconté. J'ai attrapé le coronavirus avec mon conjoint et ma fille, donc j'ai perdu l'odorat, le goût, enfin non, ça a été vraiment un confinement formidable. Et après, j'ai appris que je ne pouvais pas revenir à mon poste, donc en juillet dernier. Donc à un moment, on peut pas retrouver du travail, en fait. Donc l'année dernière a été une année sacrément dure.
T'as été... Ton congé maternité, c'est fini fin 2019.
Fin 2019, ouais.
Vous convenez avec ton ancien employeur que tu vas pas être renouvelé tout de suite parce que pour te laisser te entre guillemets te remettre,
voilà,
de ton congé maternité compliqué. Toi, tu t'attends à reprendre, à avoir un contrat. Et en fait, à la dernière minute, juste avant l'été, ils te disent non. C'est-à-dire juste avant la
rentrée. Alors, c'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire que j'ai postulé à d'autres postes.
Ouais.
Ils l'ont appris. Mais je pensais quand même que ça ne changeait rien. C'est-à-dire que moi, je postulais à d'autres postes de manière un peu naïve en me disant, voilà, si j'arrive à avoir un poste plus proche de chez moi, ça pourrait être plus facile pour moi. Et puis sinon, de toute façon, je retournerais dans mon école. Et donc mon ancienne direction m'a dit, on va rouvrir ton poste au concours. Mais j'ai dit oui, ben si vous voulez, mais moi je vais postuler. Enfin, c'était mon poste. Mmh. Et donc j'ai passé un concours auprès de mes anciens employeurs. Donc c'est très humiliant qu'on repasse un oral. Oral pendant lequel on a amplement abordé ma maternité, donc ce qui est illégal. Mmh. On m'a demandé voilà comment vous allez gérer avec votre nouvelle vie. Oui. Bien. J'avais travaillé 9 ans là-bas quand même.
Ah oui, 9 ans.
Ouais. Et puis une semaine plus tard, donc vers fin juillet, on m'a dit bah voilà Camille, on a une mauvaise nouvelle. On a pris une fille très bien.
Ah ouais, c'est pas cool du tout.
C'était très dur. Voilà. Donc c'est vrai que moi, l'été dernier, je me suis retrouvée à un moment, je me suis dit bon bah tout est catastrophique, c'est la pandémie, on va vers une bonne grosse crise économique. Je suis au chômage, je n'ai pas de travail.
Oui, parce que tu devais reprendre à la rentrée.
Ah oui, je devais reprendre
donc,
en septembre.
Donc la veille de...
Bah, c'était un mois et demi avant, oui.
La veille de tes vacances, quoi.
Ah oui, ouais. Donc moi, j'ai passé toutes mes vacances à chercher du travail, à appeler tous mes contacts, à chercher n'importe quoi, des textes, des machins,
ouais,
des
donc,
vacations.
Ça t'a bien pourri ton...
Ah oh, bah c'était un été...
ton été.
Ah, c'était un été... Très dur, ouais. Très, très dur. Et là encore, je me suis dit, ah ben formidable, je peux toujours pas profiter de ma fille. C'est-à-dire que j'étais en vacances,
oui.
Mais j'étais toute la journée pendue au téléphone à appeler tous les gens que je connaissais en disant, t'aurais pas un petit cours à droite, à gauche, un texte pour moi, une vacation, un machin. Ça, ça m'a pris une grande partie de mon été.
Oh.
Et après, j'ai eu la chance, donc c'était un peu miraculeux pour moi, de retrouver donc un mi-temps dans une école d'art à la rentrée 2020.
D'accord.
Mais c'était au dernier moment, c'est-à-dire que je n'avais aucun autre plan de travail fixe.
Ouais. Et là, du coup, tu travailles à mi-temps.
Voilà. Donc là, j'ai un mi-temps dans une école d'art. Et puis après, à côté, j'ai eu quelques vacations d'enseignement dans différents établissements. Et puis des textes.
D'accord. Et puis finalement, bon, financièrement, c'est pas forcément top, mais ça te permet d'avoir plus de temps pour Madeleine, in fine.
J'aimerais te dire que oui, c'est exactement ça, mais en vrai, c'est pas tout à fait ça. En fait, je dois dire. Là encore, c'est le spectre de la mauvaise mère, mais je mets Madeleine tous les jours à la crèche.
C'est pas le spectre de la mauvaise mère, c'est ton.
Non, mais je travaille beaucoup. Parce que, bon, cette expérience avec mon ancienne école, ça a été très douloureux, ça a été très difficile. Et j'ai eu besoin de prouver que je pouvais faire beaucoup de choses, que j'étais très dynamique, très battante. Mmh. Et aussi, j'ai accepté quasiment tous les projets qu'on m'a proposés.
Mmh.
Et donc là, je suis en train d'écluser toutes les choses que j'ai acceptées l'été dernier. Donc j'espère que l'année prochaine, ça sera un peu plus calme. Parce que là, en ce moment, j'ai vraiment beaucoup de choses à faire.
Tu me parles souvent de ce spectre de la mauvaise mère parce que tu culpabilises ?
Un petit peu, ouais, quand même. Oui, je culpabilise parce que ma fille va à la crèche 5 jours par semaine, du matin jusqu'au soir.
T'es pas la seule ?
Non, je sais, je suis pas la seule, mais quand on a, comment dire, alors déjà je suis à mi-temps, dans mon emploi principal, oui. Disons, et comment expliquer ça ? Mon travail est très, enfin le travail que je fais, les textes que j'écris, c'est assez, c'est un travail un peu solitaire, que je peux faire le soir, que je peux faire tôt le matin, enfin... Et souvent, je culpabilise de laisser ma fille à la crèche alors que je n'ai pas un 35 heures, par exemple.
Oui, tu n'es pas obligée de...
Voilà, je ne suis pas obligée d'être à mon bureau à 9 heures.
Mm.
Mais moi, j'ai envie. Moi, j'aime bien travailler. J'aime beaucoup travailler.
Oui, mais c'est ton équilibre.
Voilà, c'est mon équilibre. Et puis alors après, moi, quand je vais chercher Madeleine le soir, c'est la fête. Hein. Je suis vraiment très heureuse. Mais j'ai toujours dans un coin de ma tête ce spectre-là où je me dis, j'espère que les gens ne me jugent pas trop... Parce que beaucoup de gens, quand j'ai trouvé mon mi-temps, m'ont dit « Ah, mais tu vas pouvoir prendre Madeleine plus. Tu vas pouvoir la mettre moins à la crèche. Tu vas pouvoir la prendre le mercredi ou un autre jour. » Et non, je ne l'ai pas fait.
Mais est-ce que tu crois que les pères se posent des questions ?
Alors, j'allais te dire ça, mais aucun père ne se pose jamais la question. Et en plus, personne ne dira ça à un père.
Mmh.
Personne ne dira à un père « Ah, bah, t'es à deux tiers temps. Super, tu vas pouvoir prendre ton fils tous les mercredis. » C'est quelque chose qui repose essentiellement sur les mères.
Et du coup, la culpabilité qui va avec.
Ah ben complètement. Et ça, c'est vrai, c'est un truc dont je discutais avec beaucoup d'amis pendant mon congé maternité et après, qui ont eu des enfants en même temps que moi. C'est que nous, on ressent de la culpabilité, et pas eux.
Jamais. Et... Même le tien, qui a l'air d'être hyper au fait à la question de la charge mentale.
Oui, mais il en ressent quand même très peu. Ah oui. Parce que justement, lui me dit, mais tu devrais pas en ressentir. Moi, je n'en ressens pas.
Comment ils font ?
Comment font-ils ? Exactement. C'est une vraie question. Les jeunes pères que je connais ne ressentent pas cette culpabilité. Moi, j'ai l'impression que autour de moi, on est très nombreux à ressentir des culpabilités pour des choses minimes. Ah, j'ai donné un petit pot industriel aujourd'hui parce que j'avais la flemme. Voilà. Et de se flageller avec des poireaux parce que on a donné un petit pot industriel ou un petit biscuit industriel ou on avait la flemme de le coucher le soir. Alors du coup, ça a traîné. Et
après, on l'a pas lavé.
On l'a pas lavé. Voilà. Ou on n'est pas sorti au parc parce qu'on avait la flemme. Et que c'est chiant d'aller au parc parce qu'après il y aura du sable partout. Et on le fait. Mais on ressent quand même des petites culpabilités. Parce qu'on se dit, mais Laurence Pernoud a dit que c'était très très important qu'il voit des branches d'arbres tous les jours, ou alors que le sommeil soit très ritualisé, alors qu'en fait on sait que ce soir-là, on l'a mise au lit parce qu'elle était crevée et qu'on s'est dit, ah non, ni histoire, ni chanson, parce que ça suffit. Ça, c'est quelque chose de très compliqué à partager. La culpabilité. Et autour de moi, toutes les mères ressentent à un moment donné de la culpabilité. Moi, pour mon travail, je me déplace. Depuis que ma nana est née, je me suis déjà déplacée deux jours, peut-être maximum, peut-être 3-4 jours. Même. Et à chaque fois, j'ai ressenti une petite once de culpabilité. Et je connais très peu de pères qui ressentent ça.
Ah bah non. Puis les pères qui ont des carrières, des postes à l'international.
Oui, il n'y a pas de souci.
Ils ne se sont jamais posé la question.
Et moi, quand j'ai dit que j'étais enceinte, le nombre d'amis qui m'ont dit « Ah, mais du coup, tu quittes ton travail ?» Non. Et là, quand je disais ça, je sentais « Ah bon ?» Et alors, le pire, c'est les amies culpabilisantes qui disent « Tu dis ça maintenant, mais tu verras quand il sera. » C'est le pire, parce que là, on double culpabilise. On dit déjà « Je culpabilise un peu, effectivement, de travailler loin de mon chez-moi. » Et là, en plus, une mère dit ça. Une mère qui sait déjà.
Qui sait.
Elle sait. Elle est sachante. Et elle dit, tu verras, tu pourras pas. Et ça, c'est dur. Alors moi, j'avoue, c'est un truc que je fais très attention quand j'ai des amis qui vont avoir des enfants, qui sont enceintes. Je leur dis jamais, tu verras. Jamais, jamais, jamais. Parce que tu verras rien du tout. Parce qu'en fait, les enfants sont tous différents. Les mères sont toutes différentes. Parce que... J'essaie de faire très attention à ça parce que je trouve que le syndrome du tu verras est très culpabilisant. Et c'est quelque chose de très ancré chez certaines personnes.
Ouais, je comprends.
De souhaiter la même souffrance que toi.
Et un dernier mot sur la maternité et le travail ?
C'est pas incompatible. Non, mais je veux dire, moi j'ai cru longtemps que c'était incompatible et c'était aussi une des raisons pour lesquelles je repoussais en fait ce moment-là. Maintenant, avec le recul, je me dis, mais pourquoi t'as fait ça ? Évidemment, ce n'est pas du tout incompatible et on élargit le champ de ses désirs. On les restreint pas. Moi, par exemple, j'ai pas du tout restreint mes désirs sur ma fille. J'ai au contraire agrandi le champ de mes désirs en y rajoutant ma fille dedans. Donc en fait, en réalité, c'est encore plus heureux.
Plus enthousiasmant encore.
Oui, mais moi, franchement, je trouve. Et puis en plus, je parle souvent de ma fille, même dans le cadre du travail. Ça m'arrive. Et puis, quand je fais mes visios avec mes étudiants, il y a la chaise haute derrière. Je ne peux pas le cacher. Je veux dire, c'est dans le champ... ils n'ont pas envie de le voir, ils ne le voient pas. Ils ont envie de le voir. Et ben, ils verront qu'il y a un petit bavoir un peu cracra qui est accroché. Et c'est pas, je trouve que ce n'est pas quelque chose de dérangeant. Elle fait partie de ma vie, donc je ne vais pas cacher ça et je ne veux pas le cacher en visio.
C'est un acte militant pour toi, pour montrer que c'est possible ?
Alors, ce n'est pas pour montrer que c'est possible dans la mesure où je ne veux pas que ce soit démonstratif. Genre de dire, vous voyez, moi j'y arrive, tout est possible, on peut faire de la visio avec sa fille à côté. Ça marche aussi parce que mon conjoint est très très présent. Donc, ce n'est pas tellement pour culpabiliser les autres, mais c'est plus pour dire, bah, en fait, elle fait partie de ma vie. Je ne peux pas vous la cacher à 100%. Et je pense aussi que dans mon milieu, beaucoup de jeunes artistes femmes ont vraiment, de manière militante, remis leurs enfants au cœur de leur pratique, en les emmenant au vernissage, en les peignant, en les dessinant, et malgré toutes les remarques négatives qu'elles ont entendues. Parce que ça, c'est très fréquent. « Ah oui, ma chinette, elle vient avec son bébé en vernissage, elle ne peut pas s'en séparer 10 minutes. » Mais c'est plus dans ce sens-là que je l'entends. C'est-à-dire, militant dans le sens « je ne vais pas vous cacher ça, ça fait partie de ma vie, ce n'est pas pour ça que je vais en parler tout le temps, ce n'est pas pour ça que c'est au cœur de toutes mes discussions, mais par contre, je ne peux pas le masquer. » Voilà.
Merci beaucoup Camille.
Ouais, je t'en prie.
C'était super chouette. À
travers le témoignage de Camille, on comprend que ce qui se joue durant le postpartum et la reprise du travail, c'est l'identité et la place des mères face aux représentations qu'en ont la société et les professionnels, en tant que mère comme en tant que femme. Et c'est peu dire que cette identité est ébranlée face à l'infantilisation, l'essentialisation, voire le rejet que les femmes peuvent subir lorsqu'elles deviennent mères. Les angoisses existentielles de Camille ne sont que le reflet du peu de bienveillance observée à l'égard des mères, en particulier dans le milieu de l'art. Des angoisses toutes féminines, parce que la perception de la parentalité est inégale selon le genre, même dans les couples les plus égalitaires, comme en témoignera Koum, son conjoint, dans le prochain épisode.
Voilà, c'est la fin de l'épisode.
Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous et sur les réseaux sociaux. C'est le meilleur moyen de faire évoluer les mentalités sur le sujet. Et si vous souhaitez soutenir ce podcast, un commentaire et une note de 5 étoiles sur Apple Podcasts aideront beaucoup. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour le prochain épisode. Et d'ici là, rendez-vous sur Instagram @lareprise.podcast.